France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Nathalie Stutzmann, je suis chef d'orchestre et chanteuse. Alors, c'était une période de ma vie où j'étais, c'était 2007-2008, où je commençais à très sérieusement me dire que peut-être les temps avaient changé, peut-être que il y avait effectivement quelques femmes qui commençaient à apparaître avec de véritables carrières de chef d'orchestre, et j'ai envie, ça me brûle, voilà, ça me brûle complètement. En même temps, j'ai peur de ne pas avoir de talent pour, j'ai peur de... d'être ridicule parce que j'ai un nom et que je n'ai pas envie de détruire ce que j'ai construit. Et à cette époque-là, je chante beaucoup avec CJ, donc on se connaît depuis plus de 20 ans, et je lui pose la question, je lui fais part de mon rêve, de mon histoire, et je lui demande un conseil. Et il comprend très bien tous les tenants, les aboutissants. Je lui dis, on se connaît suffisamment pour que tu me dises la vérité. Si je n'ai aucune capacité pour cela, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Je ne veux pas rêver pour rien, je ne veux pas être misérable. Et il me dit, écoute, voilà, on va travailler un peu, je vais t'inviter à diriger un orchestre de chambre qui est le mien au Japon, on voit comment ça se passe et après on en reparle. Et donc il m'a donné ma première chance, il m'a invité à diriger le Mito Chamber Orchestra, qui est un orchestre de chambre d'exception, puisque ça réunit les meilleurs instrumentistes au niveau des cordes, essentiellement japonais, et puis au niveau des vents et des cuivres, de tous les orchestres européens ou américains, avec des grands solistes. Et donc, en 2009, j'ai été invité, j'ai dirigé, et puis...
Qu'est-ce que vous dirigez ?
Je dirigeais Vivaldi Mozart. Donc on avait fait ça un peu soft, tranquille, pour voir un peu comment ça se passait. Et puis il avait beaucoup de copains dans l'orchestre, qui sont des anciens copains de conservatoire à lui, et donc quelques semaines après, on fait un point... Et apparemment, il lui avait dit que ça s'était bien passé. Il regarde la vidéo et suite à ça, il me dit, écoute, il faut que tu fonces. J'y crois et on a des concerts ensemble. Si tu peux venir à chaque fois 2-3 jours avant, on travaille. Alors, il y avait ce désir depuis longtemps qui était parallèle à l'envie de la direction, qui était de créer un orchestre de chambre qui soit le mien. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment... ça n'est pas le biais que j'ai choisi pour devenir chef d'orchestre. C'était un rêve, justement, toujours ce rêve de maîtriser l'architecture, parce que je savais tellement toujours comment je voulais construire l'œuvre du début à la fin, et cette difficulté d'être toujours dépendant d'autres partenaires qui n'avaient pas nécessairement la même vision, la même idée. Et puis cette envie... Alors, vraiment d'explorer à fond le répertoire baroque que finalement je n'avais fait qu'effleurer dans mes débuts de chanteuse. Et donc, un jour, je sors d'un concert à l'Arsenal de Metz où je n'avais pas du tout aimé faire ce concert. Je n'aimais pas le chef. J'étais très malheureuse. Et je peste dans le couloir en disant, maintenant j'en ai marre, je vais faire mon orchestre. Et dans le couloir, il y a deux personnes. Il y a un agent qui me dit, si tu le fais, ça m'intéresse, je le prends. Et un directeur de salle qui me dit, si tu le prends, je prends ton orchestre. Et là, je dis, vous plaisantez, là, vous fichez de moi, c'est... Hein, voilà, oui, c'est des belles paroles, on parle, et puis... Non, c'est sérieux. Et voilà, et je rentre à l'hôtel, je ne dors pas de la nuit, et je me dis, bon, je vais faire ça. Et maintenant, je fais comment ? Parce que ça n'est pas simple. J'avais bien sûr une volonté d'explorer le répertoire baroque sur le plan vocal, mais j'avais aussi cette volonté de montrer qu'on était passé à une autre époque du baroque, à savoir que des instruments, qu'ils soient baroques ou non, pouvaient sonner ronds, généreux, qu'on n'était pas censé jouer sans vibrato ou avec un centimètre d'archet sous prétexte qu'on jouait sur un instrument baroque ou qu'on jouait du Handel ou du Bach, et donc avec une volonté de créer un son particulier qui soit reconnaissable entre tous les autres et qui s'adapte aussi à la taille des salles de concert dans lesquelles on se produit aujourd'hui. Parce que un orchestre de 20 personnes qui joue dans une salle de 2000 places ne peut pas sonner comme dans une église de 300 personnes. Donc il y avait tous ces paramètres. Et l'ouverture d'esprit que je recherche chez musiciens, qui était un peu la même que celle que j'ai moi-même essayé de cultiver, à savoir que quand on sait jouer Brahms sur un instrument moderne, eh bien on joue différemment Bach, et quand on sait jouer Bach, on joue différemment Brahms. Quand je me retrouve à chanter la troisième de Mahler avec Chailly et qu'il me demande de chanter les trois premières notes au Mensch absolument sans vibrato, si je n'ai pas à chanter Bach, comment saurais-je le faire? Et quand je suis en train de chanter une cantate de Bach avec toute la pureté instrumentale que ça demande, mais qui est un passage très lyrique, parce que Bach peut être très lyrique, très sensuel, très chaleureux, très rond, très vivant, et loin des espèces de culs pincés qu'on nous a assénés pendant des années, qui sont insupportables de froideur et d'ennui. Bach, c'est la vie, c'est toutes les cellules vivantes. Eh bien, le fait d'avoir chanté Mahler et Brahms me permet de développer cette voix, me permet d'aller au fond d'une salle de 2000 places pour dire ce qu'il y a à dire chez Bach. Donc j'attends la même chose de mes instrumentistes. Et donc je commence des auditions et je cherche des gens qui ont cette double pratique.
Moment-là, Nathalie Stoussmann, vous avez déjà bénéficié des conseils de Panoulin, de Rattel ou ses concomitants?
Non, au moment où je crée mon orchestre, je n'ai pas encore parlé avec Simon. Je crée l'orchestre vraiment dans une démarche de chanteuse-musicienne. Et un an après, je chante avec Simon. Et je lui parle, je lui raconte l'aventure d'Ozawa, ce qui s'est passé. Et il me dit, écoute, va voir Panoula.
Moi, Panoula, je crois qu'en expliquons lui. Alors, Panoula, aux auditeurs de France Musique qui est voilà. Quand même Panoula.
Alors, Jorma Panoula, finlandais, est une légende. On l'appelle le maestro des maestros. C'est un des plus grands, des plus connus professeurs de direction, en tout cas en Europe. Il a formé Rattel, il a formé Salonen, il a formé énormément de grands chefs. Et je demande à auditionner en tant que chef à la Sibelius Academy d'Helsinki. Je tiens à préciser de manière totalement anonyme, donc incognito. Il ne sait pas qui je suis, quelle carrière je fais, il ne sait rien. Et donc j'attends avec d'autres d'autres élèves sur les bancs du conservatoire, ce qui est quand même un sentiment très étrange. Et je vois notamment sortir de la pièce quelqu'un qui s'est fait sortir rapidement. J'ai juste entendu « thank you, goodbye », ce qui veut dire « je ne vous prends pas ». Et je reconnais un chef d'orchestre que je connais, qui a déjà un orchestre symphonique en Allemagne. Je baisse la tête, je me cache et je me dis « mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais pour qui tu te prends ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Ce type-là, il a déjà un orchestre symphonique, c'est un vrai chef. Il se fait virer et toi, t'es là. » Et du coup, ça m'a enlevé toute peur. Ouais, parce que j'étais évidemment dans mes petits souliers, j'étais morte de trac. J'ai dit, j'amène quoi ? Il me dit, vous amenez ce que vous avez. J'avais les symphonies de Brahms. petit répertoire.
Petite chose.
Petite chose. Et donc, je suis rentrée devant Yorma Panula, complètement libérée, en me disant, mais ma pauvre fille, voilà.
Rien à perdre.
Rien à perdre, mais rien à perdre. Puis surtout, rien à espérer. Et donc, j'attaque la troisième de Brahms, en plus, qui est techniquement la plus difficile. Et il me laisse faire. Je fais premier mouvement, deuxième mouvement, il me fait faire toute la symphonie. Donc déjà, il me garde longtemps. Ce qui était étonnant par rapport à mon précédent. Et je comprends pas trop ce qui se passe. Puis ça se passe bien. Bon, j'étais bien confiante et tout. Et puis il me dit, est-ce que vous pouvez rester demain matin? Je lui dis, bah écoutez, j'ai un avion ce soir, mais je peux rester s'il le faut. Pourquoi? Il dit, parce que demain, j'ai l'orchestre complet. Et comme ça, on peut le faire avec l'orchestre. Et je lui dis, does it mean you keep me? Of course! Il me crie dessus, il est comme un ours, hein. Il dit trois mots. Et il me dit « Of course !» Of course, ça veut dire beaucoup quand, pour quelqu'un qui ne parle pas. Et là, je suis sorti, j'avais 15 ans. Quoi. Je sautais dans les rues d'Helsinki, il y avait de la neige, je sentais plus le froid. Je me dis, ce type-là, il me dit « Of course !» Alors que ça veut dire peut-être que je ne me suis pas trompé, mon instinct ne m'a pas trompé. Voilà. Et le lendemain, je dirige... l'orchestre et pour la première fois, donc le troisième mouvement du Brahms. Et là je pleure en sortant. Voilà. Parce que là, j'en avais rêvé toute ma vie, je l'avais imaginé toute ma vie, mais c'est mille fois meilleur que ce que j'avais imaginé. Je suis complètement, et j'ai l'impression d'avoir toujours été là, en plus. J'ai l'impression, pour moi, c'est, je me sens complètement chez moi. Ce qui est bizarre, parce que, j'arrive devant l'orchestre, je suis tétanisé de peur, et au moment où je commence, je suis chez moi. Et là, alors le virus, il est ping dans le ventre. Il n'en ressort plus. Et là, je passe l'année, une année de folie, avec tous les concerts que j'avais, à prendre des avions dès que j'ai 3 jours libres pour aller travailler avec lui. Alors, suivre des masterclass, parce que il était encore très très actif à l'époque. Là, maintenant, il commence à être un petit peu âgé, mais il donnait des séries de masterclass dans des tas de villes, beaucoup en Finlande, mais aussi à l'étranger. Mais j'ai énormément voyagé en Finlande à ce moment-là, mais dans des toutes petites villes. Et ce qui est formidable avec ces masterclass, c'est que on a l'orchestre. Donc on apprend à gérer l'orchestre, le temps. On est filmé tous les matins, et l'après-midi, on visionne avec lui et tous les autres.
Ben nous, là, on dit qu'il dit 3 mots et demi, vous le dites vous-même.
Ouais.
Ça passe comment, ça, pédagogie?
Eh bien justement, voilà, c'est une pédagogie. Alors d'abord, il vous engueule ou il vous rassure. Il grogne quand on a mal fait, il grogne. Quand on a bien fait, il fait quand on a mal fait, il fait Donc on apprend comme ça. On apprend aussi à gérer la montre, ce qui est un des grands paramètres de chef symphonique. On vous dit, vous avez 16 minutes pour faire travailler tel mouvement d'une symphonie. Et là, on découvre, on a une tempête dans la tête, on ne sait pas par où commencer, on a peur. Mon Dieu, quelle page, c'est le bazar, on attend, on perd 30 secondes, l'orchestre s'impatiente, voilà. Et je pense que Simon m'a envoyé vers lui aussi parce que c'est un homme qui a l'art de l'épure. C'est-à-dire qu'il dit toujours « help the orchestra, don't disturb ». Il faut aider l'orchestre et ne pas le déranger. Donc il est contre tout ce qui est coup de bras pour faire joli. Voilà, c'est l'efficacité, la pureté du geste. Comment traduire de la manière la plus efficace et la plus belle les intentions qu'on a. Voilà. Donc j'ai appris à nettoyer. On enlève la chantilly, on apprend l'épure. Et ça a été une année extraordinaire, voilà, avec lui.
Et vous aviez déjà enlevé la chantilly avec Hans Sauter, et ensuite vous enlevez la chantilly avec Panula.
C'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais vous avez raison.
Fils. Papa, 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 papa. quatre pianos, quatre fortes, and reverberation, down and up. Wow. Pa 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 pa, you can wait. It's like open, redo, and so.
Les grands entretiens de Nathalie Stutzmann, France Musique.
Georges Prêtre, il fait partie, Nathalie Stutzmann, de ces chefs. C'est pas du tout un intellectuel, quoi.
Alors, ce que je sais, c'est que la musique n'est pas intellectuelle. La musique, c'est de l'instinct. Et cet homme n'est qu'instinct et talent. Et génie même. Donc je suis, oui, j'adore. Même si parfois, alors il fait un truc, j'aime pas forcément. Il dit, oh, c'est trop vite, c'est trop ça. Peu importe, c'est quand même un type absolument génial. Justement, dans cet instinct, la musique, c'est un travail intellectuel. C'est-à-dire qu'on a, quand on travaille une partition, là, on est en train de se parler. Moi, j'ai passé 6 heures aujourd'hui assise à cette table d'atelier que vous voyez scotchée à faire un travail intellectuel, bien entendu. Mais la musique n'est pas faite pour les intellectuels, que les intellectuels se sauvent des scènes et on s'ennuiera moins quand on va au concert.
Mais il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Je suis bien d'accord. Donc voilà, voilà un homme. Alors il racontait souvent cette anecdote que j'aime beaucoup de ses débuts comme chef. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il était trompettiste et il va. C'était André Cuitin qui tenait la classe. Hein. La classe quand même. Hein. Il vient le voir et puis il lui dit bah vous avez quoi? Alors il avait Nuages de Debussy et il commence à diriger les quelques phrases. Il fait comme ça et Cuitin se l'arrête. Il fait mais qu'est-ce que c'est que ce rubato là? C'est pas du tout écrit, pourquoi vous faites ça? Et Prêtre lui répond parce que je le sens. Et Cuitin se dit c'est la bonne réponse, je vous prends. Génial, non? J'adore.
Il y a quelqu'un, quand même, vous l'avez évoqué parce que vous achetiez tous ces disques, mais vous l'avez rencontré pour de vrai, c'est Karajan,
ouais.
Nathalie Stutzmann.
Ouais, ouais.
C'est
j'ai
pas rien,
chance.
Quand même, mais de
oui.
Rencontrer Karajan. Eh il oui. En reste quoi?
Oh mon Dieu. Alors là, j'ai vraiment eu la terreur de ma vie quand je suis allé auditionner à Salzbourg, parce que je me suis retrouvé au milieu du Festspielhaus, qui est quand même gigantesque, la scène, quand elle est vide, elle est gigantesque, et je ne voyais pas Karajan. Il était dans le noir, il avait un micro et sa canne, il était déjà très âgé, puisque c'était quelques mois avant sa mort. Et j'ai chanté la News Dei de la Messancy, puisqu'il cherchait une alto pour la Messancy, et il me battait la mesure avec son bâton. Donc j'avais l'impression d'avoir le père Fouettard dans la salle. En fait, j'avais tellement peur, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu tellement peur que j'avais les genoux qui faisaient des castagnettes. J'avais les genoux qui étaient comme ça, qui s'entrechoquaient. J'ai cru que j'allais m'évanouir de peur. J'ai réussi quand même à faire une audition suffisamment potable pour qu'il me prenne ensuite dans son bureau. On a travaillé toute l'après-midi. Et c'est extraordinaire parce que voilà, c'était un homme qui était... J'avais une admiration, une terreur en même temps comme tout le monde. Et en fait, c'était l'homme le plus adorable de la Terre. Il parlait parfaitement français puisque sa femme était française. Et elle est toujours vivante d'ailleurs, elle est française. Et c'était un homme qui avait un charme fou, un humour extraordinaire, qui était très dur dans le travail, mais en même temps que j'ai adoré. Et j'ai eu cette chance de faire la Messancy avec lui avant sa mort.
Les chefs, souvent, on dit qu'ils chantent. Vous faites partie des chefs, du coup, qui chantent aussi, Nathalie Stoutzman.
Eh oui, j'ai la chance de pouvoir chanter, et c'est vrai que c'est un avantage extraordinaire. Avec toutes ces réceptions auxquelles j'ai assisté, en écoutant les chefs qui, quand ils sont à court des mots pour expliquer une intention, essayent de chanter. Alors, il y a ceux qui ont une très belle voix, comme Ricardo Muti ou comme Kleiber, et puis il y a ceux qui n'ont pas de voix, comme Clara Ian, qui...
Il y en a qui chantent faux.
Souvent, ils chantent très, très faux. Donc, c'est vrai que j'utilise la voix bien volontiers. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça permet d'expliquer les choses de manière beaucoup plus agréable que parfois en décortiquant de manière trop intellectuelle avec des mots. Ça fait passer un ressenti, puis une manière de faire, un contrôle de la ligne, d'un phrasé, du vibrato. Et c'est un avantage, oui, vraiment. Comme la respiration, je pense, c'est un avantage aussi.
Justement, cette respiration, je me demandais si jamais, quand on est chanteur et qu'on dirige, j'ai eu l'impression, en regardant des choses où vous dirigez, il y a des moments où j'avais l'impression que la respiration, elle était typique d'un chanteur.
Ah oui, ça me fait plaisir que vous l'ayez remarqué. Mais souvent, les orchestres m'en parlent et moi, c'est une chose qui me... Alors, par ma formation, mais c'est vrai, quand je vais au concert, il y a assez peu, finalement, de chefs et d'orchestres qui respirent. Et ces moments de silence, de respiration, on en a besoin dans la musique. Et ça me manque. C'est quelque chose... Je me sens oppressé quand j'écoute certaines interprétations. Et je me rends compte rapidement que c'est parce que ça manque de respiration. Musicale même, de respiration musicale, tout simplement. Et c'est quelque chose dont je parle assez souvent avec les orchestres. Je me souviens de ma première semaine avec l'orchestre de Dublin. On en parlera sûrement plus tard. Mais je dirigeais le prélude et la mort de Tristan. Et il y a ce début qui est terrifiant pour les violoncelles, n'est-ce pas? Cette note tenue, et tous les violoncelles ont peur, et je les vois, ils sont crispés, le son est crispé. Et tout d'un coup, j'arrête et je dis, quand vous levez l'archet, respirez avec moi, juste respirez. Et ils attaquent, le son était magnifique, et eux, ils me regardent, ils me disent, mais ça y est, on n'a plus mal aux épaules, on arrive à le faire, on n'a plus peur. Après ces années d'études et de voyages avec Panula, j'ai commencé...
On est dans quelles années, Nathalie Stoutzman?
Alors, on est en 2010. J'ai la chance de pouvoir obtenir quelques invitations à diriger, mais toujours avec un chantage. C'est-à-dire, bon, allez, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle va diriger. Alors, on lui donne l'orchestre, mais il faut que je chante. Donc, je me retrouve avec des invitations fort sympathiques, de gens qui ont quand même la gentillesse de me faire confiance en tant que chef, mais qui quand même préfèrent s'assurer que je vais chanter. Donc je dois chanter une partie du concert et diriger l'autre partie. En gros, si je chante, on me donne une symphonie.
Ça va, c'est un bon deal quand même.
C'est un bon deal, mais c'est un deal en tant que chanteuse qui est parfaitement épuisant. Et pendant cette année très difficile, j'hésite beaucoup. Je me dis, si c'est ça, la direction d'orchestre, je ne suis pas certaine d'avoir envie de poursuivre, parce que j'ai des orchestres qui ne comprennent pas vraiment ce que j'essaye de faire, parce que évidemment, on ne me confie pas de grands orchestres, on me confie des orchestres qui n'ont pas nécessairement l'habitude de répondre aux demandes musicales qui sont les miennes. Et j'ai la chance d'être filmé 2-3 fois, avec un ou deux orchestres qui sont d'un niveau assez agréable. Et un soir de mai, je reçois un email extraordinaire de Simon Rattle, qui, alors pour le coup, j'ai eu de la chance, voilà, est tombé à tout hasard sur une vidéo. Il m'a vu diriger du Brahms et du Schoenberg. Et c'est un des plus beaux emails de ma vie, voilà, où Simon me dit « You are the real thing, so I will help you, if you like. » Donc je ne dors pas pendant 3 jours. D'excitation, de joie absolument folle. Et voilà, je le contacte et il devient mon mentor de direction. je l'appelle régulièrement pour avoir les driving lessons, comme il dit. C'est l'homme le plus gentil, le plus généreux que j'ai rencontré vraiment dans ces années, parce que c'est un vrai gentil, c'est un vrai pas égocentrique, qui, quand il croit en quelqu'un, a envie d'aider. Et je l'ai vu encore il y a 3 jours, il était à Paris, à la Philharmonie, et voilà, on a parlé de mes prochains projets, et je l'appelle, et voilà, on prend un verre, et on discute, tel endroit, fait comme si, non, ça, je te conseille plutôt ça, ça, ça.
Et en termes de répertoire aussi ?
Oui, en fait, parfois, c'est moi qui lui demande des conseils. Là, on vient de me demander de diriger des symphonies de Shostakovich. J'avais envie de savoir ce qu'il en pensait. On m'a proposé une telle symphonie. Il me dit non, je te conseille plutôt celle-là. Voilà, plutôt dans ce type de travail. Et puis, dans la préparation de toutes les œuvres, ou quand parfois j'hésite sur un projet ou des idées de programme, parce qu'il a aussi souvent des idées formidables. On échange tout le temps, en fait, de manière... tout à fait libre et passionnante. J'apprends énormément, toujours. Il me fait partager son expérience. Il me fait gagner des années, parfois, sur une œuvre où il s'est cassé les dents parce qu'il avait fait comme ci, comme ça. Et voilà, c'est ça, l'enseignement, en fait. Moi, j'adore aussi passer mon savoir, et c'est formidable de pouvoir faire gagner du temps aux gens qui se lancent dans autre chose.
Shostakovich par Simon Rattle à la tête du Philharmonia Orchestra. C'est la fin du 4e épisode de ces grands entretiens avec Nathalie Stutzmann. Merci à toute l'équipe, Marie Groux, Marc Garvenès, Solal Mazran et Stéphane Desmonts. Rendez-vous demain pour la suite de cette série à 13h et quand vous voulez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.